23h à Washington, minuit à Port-au-Prince, 6h à Paris, vous écoutez Radio France Internationale. Une nouvelle édition du journal Gaëtan Plenet, bonjour.
Ah bonjour Edouard, bonjour à tous.
Les ressortissants de 12 pays ne sont plus les bienvenus aux États-Unis.
Le travel ban de Donald Trump entre en vigueur et ça inquiète les Haïtiens concernés par cette interdiction d'entrer sur le sol américain. Dans ce journal également, la conférence des Nations Unies sur l'océan qui démarre aujourd'hui à Nice dans le sud de la France. Plusieurs éditions spéciales à suivre sur RFI. On revient aussi sur cette annonce de la Russie qui dit attaquer la région ukrainienne de Dnipropetrovsk, sur le retrait du Rwanda de la communauté économique des États de l'Afrique centrale, ça a été annoncé ce week-end. On est aussi en Serbie au lendemain de deux élections municipales partielles, les premières dans le pays depuis le début du mouvement de contestation anticorruption. Et puis Carlos Alcaraz conserve son titre à Roland-Garros. Le tennisman espagnol s'est imposé hier soir sur la terre battue parisienne au terme d'un combat de titans face à l'italien Sinner. Afghans, Birmans, Iraniens, Tchadiens, Érythréens, Somaliens, autant de ressortissants qui n'ont plus le droit d'entrer aux États-Unis à partir de ce lundi. Le travel ban voulu par Donald Trump entre en vigueur. Ça concerne 12 pays au total, surtout en Afrique et au Moyen-Orient. Pour 7 autres pays, pas d'interdiction, mais des conditions d'entrée plus strictes. Le tout, dit le président américain, pour des raisons de sécurité nationale. La diaspora haïtienne d'Atlanta s'inquiète alors qu'Haïti fait partie des 12 pays concernés par une interdiction d'entrée pure et simple. Reportage d'Edouard Maille.
Une émission de télé haïtienne est diffusée dans le salon de Lydia. La trentenaire vit aux États-Unis depuis 11 ans et a de la famille en Haïti. L'interdiction d'entrer sur le territoire pour les Haïtiens aura d'importantes conséquences selon elle.
Parce qu'il y a des gens qui font du business. Ils viennent ici pour acheter, pour aller revendre. Il y a des gens qui viennent ici pour tas de choses, des raisons de santé, pour aller à l'hôpital, pour prendre des soins.
Pour Franz Bourget, trésorier de l'organisation du Front Uni pour la diaspora haïtienne, cette annonce suscite de nombreuses questions pour les Haïtiens qui vivent aux États-Unis.
Comment est-ce que ça va nous toucher, nous les Haïtiens américains? On a toujours une forte connexion avec notre pays. Par exemple, pour le décès d'un proche, est-ce que l'on pourra aller en Haïti? Et qu'est-ce qui se passera au moment de rentrer aux États-Unis? Même ceux qui ont la nationalité américaine ont peur.
Après les propos de Donald Trump accusant les Haïtiens de manger des animaux de compagnie et l'annulation de mesures de protection pour les migrants, Franz Bourget ne serait pas surpris si Donald Trump prenait de nouvelles mesures contre les Haïtiens. Edouard Maille, Atlanta, RFI.
Et ce sera le sujet du débat d'appel sur l'actualité. Tout à l'heure, une émission à suivre à partir de 8h10, temps universel. Donald Trump, qui sur son réseau social Truth Social dit vouloir libérer Los Angeles d'une invasion migratoire et rétablir l'ordre aussi dans cette ville californienne où la garde nationale a commencé à se déployer à sa demande après deux jours de manifestations qui ont tourné à l'affrontement avec les forces de l'ordre. Les manifestants s'opposent à sa politique migratoire marquée par des arrestations musclées de la très décriée police fédérale de l'immigration. Les gouverneurs des États démocrates, notamment celui de Californie, dénoncent l'envoi de la garde nationale décidée unilatéralement par le président contre l'avis des autorités locales. Un abus de pouvoir alarmant, disent ces gouverneurs. Mais le locataire de la Maison-Blanche dit, lui, ne pas exclure de le faire également dans d'autres États en cas de besoin. Les États-Unis, premier domaine maritime mondial, et pourtant grands absents de la conférence des Nations Unies sur l'océan. Ça commence aujourd'hui à Nice, dans le sud de la France. À plus d'une cinquantaine de dirigeants du monde entier sont attendus sur place avec à la clé de nouveaux engagements à prendre pour protéger davantage les océans menacés par la surpêche, la pollution, le réchauffement climatique aussi. Pourtant, il est possible d'investir dans des activités économiques qui seraient rentables sans détruire les ressources maritimes. Ça, c'est le message martelé hier par les deux coprésidents du Forum Finance et Économie Bleue qui s'est tenu à Monaco à la veille donc de cette conférence onusienne. Pascal Lamy est l'un de ces coprésidents, ancien commissaire européen, également ex-patron de l'Organisation mondiale du commerce.
L'essentiel du problème des océans, il vient de la Terre. Quelles sont les activités nocives pour l'océan auxquelles il faut s'intéresser? C'est la pollution, c'est les effluents, c'est les plastiques, bon, j'en passe. Et c'est une affaire, là aussi, de régulation pour l'essentiel sur la qualité des déchets, les stations d'épuration, enfin, j'en passe. Pour ce qui concerne la mer elle-même, l'essentiel des activités économiques qui dégradent la mer, c'est la surpêche ou des méthodes de pêche qui sont environnementalement très destructrices, comme le chalutage des grands fonds, Et puis, c'est tout ce qu'on peut faire pour décarboner le transport maritime. Ça n'est pas un problème de dégradation du milieu marin, c'est une contribution d'une activité économique qui utilise l'océan, qui émet des gaz à effet de serre. Mais en gros, le paysage, c'est celui-là.
Des propos recueillis par Lucille Gimbert et RFI se mobilise à l'occasion du début de la conférence des Nations Unies sur l'océan. Édition spéciale ce matin en direct de Nice avec Anne Cantner juste après le journal de 6h temps universel. Une autre à la mi-journée ainsi qu'un numéro spécial d'autour de la question cet après-midi. Et d'ici là, analyse et reportage dans nos journaux mais aussi sur notre site internet rfi.fr. Israël annonce avoir dérouté le Madeleine, du nom de ce bateau humanitaire parti d'Italie et qui voulait rejoindre Gaza pour briser le blocus imposé par l'État hébreu dans cette enclave en guerre et où la population meurt de faim. 12 personnes à bord du voilier, notamment l'activiste suédoise Greta Thunberg, mais aussi l'eurodéputée franco-palestinienne Rima Hassan. Tous ont été arrêtés illégalement, assure Jean-Luc Mélenchon, le chef de file de la France Insoumise, le parti dont est issu Rima Hassan. Le ministère israélien des Affaires étrangères assure lui que le bateau fait route en toute sécurité vers les côtes d'Israël et qu'il est prévu que tous les passagers retournent dans leur pays. C'est un possible revers pour l'Ukraine. L'armée russe a annoncé hier qu'elle attaquait la région ukrainienne de Dnipropetrovsk, une première en plus de 3 ans de guerre dans cette région qui, contrairement à ses voisines Donetsk et Zaporizhzhia, échappait jusqu'à présent au contrôle russe, même partiel. L'état-major militaire ukrainien ne confirme pas l'information. Seul le commandement des forces de défense du Sud affirme, je cite, que l'ennemi n'abandonne pas ses intentions d'entrer à Dnipropetrovsk et que les soldats ukrainiens tiennent leur secteur du front. Mais ça intervient quand même quelques jours après l'attaque ukrainienne contre les aérodromes russes. Et difficile de ne pas voir un lien, nous dit Ulrich Bouna, analyste géopolitique.
La Russie a effectivement subi quand même un camouflet. Alors là non plus, ça ne va pas changer la face de la guerre, hein, le fait d'avoir détruit une dizaine de bombardiers, mais symboliquement, c'est quand même extrêmement important. Et donc, dans ce cadre-là, pour la Russie, non seulement répondre, on va dire, en bombardant les villes ukrainiennes pour montrer sa puissance et communiquer derrière pour dire, regardez, malgré tout, nous avançons. C'est effectivement une façon déjà de dire aux Ukrainiens quoi qu'ils fassent, l'armée russe avance. Et c'est aussi une façon de, je pense, de faire passer un message à l'Occident, et notamment aux Européens qui ont menacé la Russie il y a quelques semaines, notamment voilà, de sanctions extrêmement massives si jamais il y avait pas un cessez-le-feu qui était mis en place. Finalement, là, la Russie semble dire, vous pouvez nous menacer autant que vous voulez, nous continuons à avancer sur le terrain, et donc finalement, si vous voulez un cessez-le-feu, il faudra vous plier à nos conditions, qui grosso modo sont une capitulation de l'Ukraine, et sinon, nous allons continuer à progresser, quoi qu'il en coûte.
Ulrich Bouna, auteur du livre « La guerre hybride en Ukraine, quelle perspective ?» Il était interrogé par Harim Lipold. Un abus totalement inadmissible, c'est ce que dénonce sur notre antenne Maître Emmanuel Sim, le vice-président du mouvement pour la résistance, la renaissance du Cameroun. Hier, le président de ce parti, l'opposant Maurice Kamto, qui rentrait d'une tournée en Europe, a été empêché par les forces de l'ordre de sortir de son domicile, alors qu'il comptait se rendre au siège du MRC à Douala pour une rencontre avec des responsables locaux. Dans une vidéo diffusée sur Facebook, il a appelé ses partisans à rentrer chez eux dans le calme et a annoncé reporter le rendez-vous. C'était l'actualité du week-end sur le continent africain. L'annonce par le Rwanda de son retrait de la CEAC, la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, Kigali a dit déplorer l'instrumentalisation de l'organisation régionale par sa rivale, la République démocratique du Congo. En cause, le report d'un an de l'accès du Rwanda à la présidence tournante de la CEAC sur fond de conflit dans l'Est congolais. Alors quelle sera la portée de ce retrait rwandais? Eh bien assez faible, nous dit le chercheur Thierry Vircoulon.
Parce qu'il appartient à d'autres organisations régionales aussi, et surtout parce que la CEAC lui apporte probablement rien et est une organisation régionale qui est assez largement une coquille vide, qui n'a ni réussi dans son mandat économique, donc de coordination des économies de la région. On lui a donné plus tard un mandat politique, un mandat de paix et de sécurité et donc de gestion des différentes crises dans la région Afrique centrale. Et on voit bien que aussi bien au plan de la coordination des économies de la région que de la gestion des conflits dans la région, elle a échoué, puisque conflits dans la région, elle n'en a résolu aucun, ils ont cessé de se multiplier. Et le dernier en date important, c'est celui entre Kinshasa et Kigali, dans lequel la CEAC ne joue absolument aucun rôle.
Thierry Vircoulon, chercheur associé au Centre Afrique de l'IFRI, interrogé par Amélie Tullet. Jair Bolsonaro à la barre, l'ex-président brésilien comparaîtra tout à l'heure devant la Cour suprême du pays. La justice l'accuse d'avoir été le leader d'une organisation criminelle et d'avoir en fait participé à un projet de coup d'État juste après sa défaite à la présidentielle de 2022 face à Lula. Il risque 40 ans de prison, mais dénonce une persécution politique pour l'empêcher de se représenter au scrutin de l'an prochain, bien qu'il soit de toute façon pour l'instant inéligible jusqu'en 2030. On votait hier en Serbie, alors pas partout, seulement dans deux communes pour des municipales partielles. Ça n'en demeurait pas moins un scrutin très symbolique, puisque c'était le premier depuis le mouvement de contestation qui secoue le pays. Ça avait démarré, on s'en souvient, après la chute d'un auvent de béton dans une gare. 16 personnes avaient été tuées et les manifestants avaient dénoncé la corruption au sommet de l'État. Ils continuent d'ailleurs à le faire. Ces élections d'hier avaient donc valeur de test, aussi bien pour les mouvements étudiants qui mènent la contestation que pour le président serbe Aleksandar Vučić. Correspondance à Belgrade de Laurent Rouy.
À l'issue de deux scrutins municipaux organisés dans une ambiance très tendue, aussi bien l'opposition que le camp gouvernemental ont déclaré victoire. D'après une association d'observateurs électoraux présente dans les deux communes, les scrutins ont été émaillés de très nombreuses irrégularités, avec des incidents graves dans 86% des bureaux de vote dans la ville moyenne de Zaječar et 55% dans le gros village de Kosjerić. Dans les deux communes, des rassemblements spontanés de citoyens ont eu lieu pour défendre la victoire de l'opposition, tandis que d'importantes forces de police en tenue anti-émeute étaient déployées, donnant même lieu à des bousculades à Kosjerić. Dans la soirée, les étudiants qui bloquent les universités depuis 7 mois pour dénoncer la corruption du régime se sont aussi rassemblés dans les deux principales villes de Serbie, la capitale Belgrade et Novi Sad, pour célébrer la victoire et dénoncer la fraude électorale. Sur le terrain, l'opposition a déjà réclamé le recomptage des bulletins. Laurent Rouy, Belgrade. RFI.
On termine avec du tennis et le tournoi de Roland-Garros qui s'est lui-même terminé hier et avec la manière au terme d'une finale masculine d'anthologie, 5h29 d'un immense combat en 5-7 entre les deux finalistes, l'Espagnol tenant du titre Carlos Alcaraz contre l'Italien et numéro 1 mondial Yannick Sinner qui a eu 3 balles de match mais qui ne les a pas transformées et Alcaraz a complètement retourné cette partie pour remporter une nouvelle couronne sur la terre battue parisienne. Ça ne l'a pas empêché de saluer son adversaire juste après son titre.
C'est un privilège de partager le terrain avec toi dans chaque tournoi, d'entrer dans l'histoire avec toi. Je suis vraiment heureux de pouvoir entrer dans l'histoire avec toi dans ce tournoi et dans d'autres. Tu es une grande source d'inspiration pour les jeunes, pour moi aussi. Je dois te remercier d'être une telle source d'inspiration. Bonne chance et tous mes vœux de réussite pour la suite.
Carlos Alcaraz qui remporte son 5e grand chelem de tennis. Pas de titre espagnol par contre en Ligue des Nations de football. L'Espagne battue hier en finale par le Portugal. Ça s'est joué au tir au but. Il est 6h13 à Paris.
Gaëtan Plenet.
Le retour de l'information africaine dans un gros quart d'heure. D'ici là, on revient sur cette grosse panne d'internet ce week-end en Corée du Nord. On est à Nice avec l'artiste Hugo Schiavi qui présente une œuvre monumentale en marge de la Biennale des Arts et de l'Océan. Il est notre invité culture ce matin. Et puis le conseil santé du jour à suivre est cette question et des éléments de réponse évidemment. Comment bien comprendre son bébé ? Mais d'abord, reportage au sein d'un média qui détonne en Israël, un site d'information où travaillent une vingtaine de journalistes israéliens et palestiniens qui unissent leurs plumes pour raconter une guerre qui dure depuis plus d'un an et demi, une guerre à Gaza, difficile d'ailleurs à raconter puisque l'enclave est toujours fermée aux reporters étrangers et que plus de 200 journalistes palestiniens ont été tués selon le syndicat des journalistes palestiniens. Alors ce média, il s'appelle Plus 972, 20 000 lecteurs avant l'attaque du Hamas le 7 octobre 2023, 120 000 visiteurs chaque mois désormais selon les rédacteurs en chef avec même des pics pouvant atteindre le million sur certaines enquêtes. Alors à quoi ressemble le quotidien de cette rédaction mixte ? Amira Souilem est allée à la rencontre des équipes en Israël mais aussi en Cisjordanie occupée. Voici son reportage.
Ce soir encore à Tel Aviv, des centaines d'Israéliens manifestent pour demander la fin de la guerre à Gaza. Des photos d'enfants gazaouis à la main. Ils espèrent créer un électrochoc dans l'opinion publique. Dans la foule, caché derrière son objectif, Oren Ziv, journaliste israélien.
La première semaine de guerre, juste après le 7 octobre, le chef de la police a dit aux manifestants que si certains voulaient manifester en solidarité avec Gaza, ils pouvaient affréter des bus pour les envoyer là-bas. C'est important d'être là parce que cette mobilisation vise à faire en sorte que les Israéliens réalisent ce qu'il se passe réellement à Gaza.
Oren Ziv travaille pour le site d'information Plus 972. Un clin d'œil à l'indicatif téléphonique d'Israël. Sa vocation est née pendant la seconde intifada au début des années 2000. Il cherche alors à comprendre pourquoi ses voisins jettent des pierres et s'engage dans une association israélo-palestinienne. L'engagement, c'est l'ADN de Plus 972. Ses locaux sont basés à Tel Aviv. Roussoun Bicharat en est la rédactrice en chef. Elle est palestinienne d'Israël.
Le génocide à Gaza et les atrocités du 7 octobre, c'est du jamais vu. On n'a jamais vu autant de cruauté. On est tous encore traumatisés par ce qui se passe et on ne s'en remet toujours pas. Je crois que la seule solution, c'est d'avoir un État binational où Palestiniens comme Juifs israéliens vivent ensemble.
Le rêve de liberté pour tous semble bien loin pour le moment. À une centaine de kilomètres de là, en Cisjordanie occupée, Bess El Adra est l'un des reporters palestiniens du site d'information. En mars dernier, il a remporté à Hollywood l'Oscar du meilleur documentaire pour son film « No Other Land ». Il y racontait le quotidien de son village soumis à la violence des colons israéliens. Parce qu'il travaille avec des Israéliens, le jeune homme a essuyé des critiques de la part de certains de ses compatriotes. Il tente de passer outre ces remarques qu'il juge déconnectées des réalités et binaires.
Hier, des activistes israéliens ont reçu des coups de la part des colons et la police n'a rien fait pour les protéger alors qu'ils sont israéliens. Et ce type de militantisme qui tente de montrer la réalité, c'est important.
De Tel Aviv au village de Cisjordanie occupée, les membres de Plus 972 continuent de penser que le cycle de la violence et de l'injustice peut être rompu. Eux feront tout pour. Amira Suilem, Tel Aviv, RFI.
Un reportage à retrouver sur notre site RFI.fr et sur notre application Pure Radio. Ça s'est passé samedi entre 2 et 3 heures du matin, heure de Pyongyang, la capitale nord-coréenne. Le pays a connu une panne majeure d'Internet. Plusieurs sites importants ont été touchés. Bonjour Camille Ruiz.
Bonjour, bonjour à toutes et à tous.
Correspondante de RFI en Corée du Sud, on tente de comprendre, Camille, ce qui a pu se passer. Est-ce qu'on connaît les raisons de ce dysfonctionnement ?
Alors c'est très difficile de savoir avec précision, hein. On le sait, la Corée du Nord est un des pays les plus fermés au monde, si ce n'est le plus fermé, mais il y a des hypothèses. Certains chercheurs qui travaillent sur le sujet ont remarqué que les connexions avec des pays voisins comme la Chine et la Russie avaient aussi subi des perturbations. Donc c'est plutôt la piste d'une cause interne qui est privilégiée et non une cyberattaque. Et c'est intéressant que les chercheurs le précisent, même si ce sont encore une fois que des hypothèses, parce que la Corée du Nord a déjà été victime de cyberattaques.
Il y a notamment ce cas en 2022, Camille.
Oui, Gaëtan, un hacker américain indépendant s'était vengé après avoir été la cible de pirates nord-coréens qui visent en général plutôt des organisations gouvernementales, des entreprises et parfois même des hôpitaux. Ce hacker s'en était pris au serveur nord-coréen et avait réussi à couper, entre autres, l'accès au site du principal journal du pays, le Rodong Shinmun. Mais en ce qui concerne la panne de samedi, les experts estiment que la piste privilégiée n'est pas celle d'une cyberattaque. La coupure en elle-même a duré environ 9 heures, vous l'avez dit. Plusieurs sites importants ont été affectés, comme celui du ministère des Affaires étrangères, de la compagnie aérienne nationale Air Koryo, ou encore le site de la presse d'État. Mais pour le moment, on n'a pas assez d'éléments pour décrypter exactement ce qu'il s'est passé.
Et est-ce que, Camille, on sait combien d'utilisateurs ont été affectés par cette panne ?
Non, on ne sait pas. Et puis la population nord-coréenne n'a pas dans son entièreté accès à Internet. Une partie des habitants utilise une sorte d'intranet. C'est un système qui propose des services comme une messagerie ou des sites web, mais qui reste totalement coupé du monde. Et d'ailleurs, les sites web appartiennent à des universités ou aux centres informatiques du gouvernement. En fait, seule une élite triée sur le volet possède une connexion reliée au web international. C'est environ 1% de la population. Donc ce sont des hauts fonctionnaires, des diplomates ou des touristes étrangers. Dans la capitale, à Pyongyang, il y a par exemple une connexion Wi-Fi qui s'appelle Mirai. Et selon les chercheurs du site d'analyse spécialité 38 North, donc 38 Nord en français, les utilisateurs doivent avoir un mot de passe, une carte SIM, mais surtout un appareil autorisé à se connecter à ce Wi-Fi pour pouvoir l'utiliser. En tout, dans le pays, on compterait environ 1 000 000 d'adresses IP seulement pour 25 millions d'habitants.
Merci Camille Ruiz, en direct de Séoul pour RFI. On en parlait dans le journal, c'est aujourd'hui que débute la 3e conférence des Nations Unies sur l'océan. Ça se passe à Nice, dans le sud de la France. Et la Biennale de Nice y fait écho cette année. La mer autour de nous, c'est le titre qui a été choisi pour cette Biennale consacrée aux arts et à l'océan. 11 expositions ont investi les différents musées de la ville. Elles y resteront jusqu'en octobre. Parmi ces expositions, l'installation tentaculaire de l'artiste, sculpteur et plasticien Hugo Schiavi dans la grande halle du 109, les anciens abattoirs de Nice. L'œuvre s'appelle La Zone de Minuit. C'est une immersion sombre, mystérieuse aussi, à 4000 mètres sous la surface de l'eau. Hugo Schiavi est notre invité culture ce matin au micro de Lisa Giraldini.
Hugo Schiavi, bonjour.
Bonjour.
Votre installation, elle est sur le monde des abysses. Elle est exposée en ce moment dans la grande halle du 109. Que raconte cette œuvre ?
En fait, cette œuvre part d'un constat à la fois alarmant et fascinant, c'est qu'on ne connaît pas les abysses. Les abysses, en fait, sont un peu la dernière terra incognita du monde dans lequel on vit. On connaît mieux la Lune et Mars que le plancher océanique. Et pourtant, il est déjà absolument menacé par les industries. Donc l'œuvre parle de ça, parle d'un imaginaire qu'on a autour des océans. Donc je me suis intéressé autant à l'imaginaire marin antique qu'aux mythologies plus contemporaines. C'est un imaginaire développé à partir de l'inconnu, de ces manques dans l'histoire et dans la science qu'on a au sujet de ce monde-là. J'ai créé une œuvre peuplée de créatures hybrides qui sont issues de la hybridation entre le monde humain et le monde naturel de ces fonds marins.
Quelle forme prend cette installation ? Comment vous avez créé cette zone de minuit, comme elle s'appelle ?
C'est effectivement une installation. C'est important pour moi de le rappeler parce que c'est une œuvre en soi. Il y a des sculptures, il y a un travail sonore, il y a des vidéos. Mais c'est un tout, une installation immersive. La zone de minuit, effectivement, c'est le titre de l'installation. C'est aussi le nom qu'on donne aux abysses. Enfin, il y a un endroit très spécifique de la colonne d'eau qui est situé à partir de 2000 mètres de profondeur à l'endroit où les rayons du soleil ne passent plus. La lumière y est absente totalement. Et c'est l'endroit où la communication unique, ou en tout cas principale de ces créatures, se fait par bioluminescence.
Aucune des créatures qui sont présentées dans l'installation n'existe pour de vrai. De quoi vous vous êtes inspiré pour les imaginer ?
Je me suis évidemment inspiré des créatures qui existent dans les abysses, mais c'était pour moi important et même indispensable de ne pas en faire une représentation, de ne pas en faire une espèce de pastiche de ce que pourraient être des créatures des abysses. Et c'est même d'ailleurs probablement là que tout l'historique de ce projet commence, c'est-à-dire toute la partie manquante.
Pour l'aspect sonore de l'œuvre, vous avez travaillé avec un bioacousticien. Quel genre de son il a pu vous partager ?
Des sons de mammifères marins, de cachalots notamment, pas seulement, de coraux et aussi des sons anthropiques. Mais on a aussi beaucoup travaillé à partir de sons générés artificiellement. C'est ça qui est aussi très important dans cette installation, c'est que, au même titre que le travail des sculptures et le travail des vidéos, le son aussi est une forme d'hybridation entre des sons organiques, des sons synthétiques. Et on a vraiment travaillé ce dispositif sonore comme ça. Ça a été un travail assez intense parce que déjà, pour gérer l'acoustique d'un lieu pareil, c'était assez complexe. Et surtout, c'est un son qui voyage, on est en multidiffusion, donc... C'est pas une simple nappe sonore, on a vraiment un son qui se déplace. Et ce son qui se déplace, c'était aussi important pour nous, pour rendre vivantes ces créatures aussi.
Merci, Hugo Schiavi.
Merci à vous.
À la zone de minuit, l'œuvre monumentale d'Hugo Schiavis est à voir à la Grande Halle du 109 à Nice jusqu'au 24 août prochain.
Le Conseil Santé avec Sumo Assurance.
On l'aime souvent avant même qu'il naisse, mais une fois que c'est fait, c'est pas forcément facile de communiquer. Comment comprendre son bébé? C'est le Conseil Santé du jour avec Raphaël Constant et son invité.
Turn Day, Mariam Diouf, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes pédiatre à l'université de néonatologie de l'hôpital d'Al-Aljam à Dakar, au Sénégal. Docteur Diouf, comment comprendre un bébé qui ne parle pas encore? À quels signes il faut être finalement attentif?
Découvrir bébé, c'est une découverte mutuelle. Il faut savoir observer et devoir demander de l'aide pour des signes comme la fièvre, le bébé qui fait de la température, le bébé qui a une coloration de la peau qui est jaune et des yeux, un bébé qui vomit, un bébé qui somnole, qui n'a pas le même comportement que d'habitude, qui pleure beaucoup ou qui n'accepte pas d'être réactif, qui refuse de téter, un bébé qui a un saignement au niveau de l'ombilic qui n'est pas encore cicatrisé, un bébé qui vomit et un bébé également qui a des difficultés respiratoires.
Et est-ce que tous les pleurs ont une signification, forcément?
Un bébé qui pleure, pleure forcément pour une chose bien précise. Ça peut être juste la couche qui est pleine, ça peut être parce qu'il a faim, ça peut être parce qu'il est dans un inconfort, il fait trop chaud, ou bien qu'il a une éruption, que ça gratte. Donc un bébé pleure forcément pour une chose, surtout si les pleurs persistent.
Alors comment rassurer les mamans en leur disant que oui, elles peuvent savoir, il y a une explication, il faut la trouver. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire?
Alors, les mamans doivent partir du principe que elles sont des pédiatres. Je leur dis toujours, vous êtes des pédiatres. Pourquoi? Parce que vous vous occupez d'un bébé qui ne sait pas parler et pourtant, vous les amenez en consultation pour un signe que vous avez remarqué qui n'était pas présent. Pas forcément pour les signes que je viens d'énumérer. Quelquefois, c'est un signe qu'on n'énumère même pas comme une urgence, que vous avez remarqué et vous l'amenez, même si c'est un signe qui n'est pas grave. Le fait que vous l'ayez remarqué dit que vous êtes attentif à votre bébé. Donc, il faut vraiment vous faire confiance, avoir une attitude zen et observer et pouvoir demander de l'aide quand il le faut.
Merci, Dr Ndeye Mariam Diouf, pédiatre à l'unité de néonatologie de l'hôpital d'Al-Aljam à Dakar. Au Sénégal, vous pouvez retrouver toutes les émissions de Priorité Santé en podcast sur l'application RFI Pure Radio et sur notre site rfi.fr.
Et merci à vous, Raphaël Constant. On se quitte avec un petit peu de musique et une programmation spéciale dans les prochains jours à l'occasion de la conférence des Nations Unies sur l'océan. Ce matin, voici la béninoise Angélique Kidjo et ce titre en Yoruba dans lequel elle exalte Yemanja, la divinité des eaux, la figure maternelle qui unit tous les peuples. Voici Yemanja sur RFI. Yemanja, chanteuse béninoise Angélique Kidjo sur RFI. L'actu revient dans une minute.
Tout à l'heure sur RFI, sur le pont des Arts, Marjorie Bertin.
Comment photographier la mer et les océans? À l'occasion de la conférence des Nations Unies sur l'océan, nous recevons le photographe Jean Gomi, dont l'œuvre est exposée au Musée de la Marine, et sa commissaire Marion Vessière, pour une immersion passionnante, la pêche au-delà du cliché.
Sur le pont des Arts,
avec la compagnie Corsaire.
Du lundi au vendredi à 15h10 TU, sur RFI.
Ce lundi sur RFI,
Accent d'Europe vous propose de partager la vie des Européens.
Frédéric Lebel.
L'Irlande détient un record inquiétant pour les chiffres de sa natalité. En Europe, c'est le troisième pays le plus cher pour élever un enfant. Les congés parentaux ne sont rémunérés qu'à hauteur de 23% du salaire et les frais de garde astronomiques.
Accent d'Europe, du lundi au jeudi à 17h10 TU sur RFI.